grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, dont j'ai le plaisir d'assurer l'intérim pour la semaine à venir. Aujourd'hui, plus que jamais, on va tenter de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, car c'est parce qu'elles l'ont fait que les choses doucement ont commencé à avancer, d'abord timidement, puis de plus en plus fort. Elles l'ont dit, oui, elles avaient très mal pendant leurs règles, et non, ça n'était pas normal. À force, on les a entendues, et le terme d'endométriose a commencé à être connu. Oh, c'était il y a 2 ans à peine, mais alors on a su que cette maladie, qui pouvait être très invalidante, touchait jusqu'à 2 millions de femmes en France, soit 10% des femmes en âge de procréer. Aujourd'hui, on l'a compris, c'est la première cause de l'infertilité. Pourtant, on met toujours en moyenne 7 ans à poser le diagnostic. Les crédits pour la recherche sont toujours insuffisants et les traitements tâtonnent. Alors ce matin, on va lui donner un petit coup de pouce à la lutte contre l'endométriose. Comment la reconnaître? Comment la traiter? Comment faire pour vivre avec? Voilà les questions qu'on va se poser avec, notamment comme chaque lundi, deux regards croisés sur notre santé. Aline Perraudin, directrice de la rédaction de Santé Magazine dont nous sommes partenaires. Bonjour Aline.
Bonjour.
Vous nous direz en fin d'émission comment, malgré tout, on peut mettre toutes ses chances de son côté, tomber enceinte, hein, c'est ça, malgré l'endométriose, parce que c'est possible. Également avec nous, et j'ai enfin la joie de le rencontrer en vrai, celui qui sait si bien dire les choses en face, mais si doucement, également le médecin, blogueur, romancier Baptiste Beaulieu. Bonjour Baptiste.
Bonjour Julia.
Ce matin avec vous, on va se poser la question de la juste distance entre médecin et patient, c'est ça ?
La question que je vais poser ce matin, c'est peut-on pleurer avec la famille de nos patients ?
Alors voilà, c'est le nom de votre blog, c'est aussi celui de votre rendez-vous avec les auditeurs de Grand Bien Vous Fasse. Baptiste Beaulieu, ce sera dans un peu moins d'une demi-heure. Avant, pendant, après, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 01 45 24 7000. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou bien sur cette adresse, grandbienvousfasse@radiofrance.com. Surtout, dites-nous tout, cette émission se fait avec vous.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Julia Foyce.
Avec vous et ce matin également avec le professeur Nizar Aflax, gynécologue, obstétricien, spécialiste de l'endométriose à l'hôpital Beaujon à Clichy et à la clinique Hartmann de Neuilly, professeur également au collège de médecine des hôpitaux de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Marie Gabillet, vous représentez ce matin Endomind, association de patientes dont vous chapeautez, si j'ai bien compris, tout l'aspect scientifique, hein, c'est ça, puisque
oui, tout à fait.
Vous êtes également chercheuse. Alors justement, une bonne nouvelle enfin sur ce terrain-là, l'APHP, Assistance publique des hôpitaux de Paris, lance pour la première fois une vaste enquête auprès des femmes souffrant d'endométriose en collaboration avec Endomind. Vous nous le révélez ici ce matin, de quoi s'agit-il précisément ?
Alors oui, on est très content aujourd'hui d'annoncer l'ouverture d'une grande cohorte de patientes qui est atteinte d'endométriose. Donc en fait, on fait un appel à candidature à partir d'aujourd'hui. On s'est mis donc en partenariat avec la PHP qui dirige un projet de recherche qui s'appelle COMPAR. Et donc on va faire une partie sur l'endométriose.
Alors, l'idée, c'est que les patientes sont les meilleures expertes finalement de la maladie.
Oui, en fait, c'est aussi l'objectif de l'étude COMPAR, c'est aussi d'avoir le côté patiente. C'est vrai qu'on fait souvent des études où on recueille des informations via les médecins et là on va en direct avec les patientes et on essaye de recueillir des informations qui les touchent directement. On va parler de la qualité de vie notamment, de l'impact de la maladie sur
leur
vie.
Et ça va permettre d'affiner le diagnostic, ça va permettre d'affiner les traitements.
Alors,
ça va
on attend quand même beaucoup de choses de cette étude parce que finalement il y a très très peu de données, on a peu de littérature et donc aujourd'hui on va chercher à savoir quelles sont les formes de la maladie, est-ce qu'il en existe plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. On va essayer de savoir l'évolution dans le temps parce que ça va se faire sur une dizaine d'années au moins, ce recueil d'informations. Et donc voilà, essayer d'avoir plus d'informations de la part des patientes aussi sur leur qualité de vie.
Et c'est un vrai grand pas vers la reconnaissance des patientes. L'objectif, c'est d'atteindre 5000 patientes.
Ouais,
ça vous
minimum.
Prend, je m'adresse à celles qui nous écoutent et qui souffrent d'endométriose, ça vous prendra 10 à 20 minutes par mois.
On va tabler sur 20 minutes par mois, donc c'est vrai que c'est un petit peu de temps, mais vraiment pour faire avancer la recherche, donc c'est vraiment important et c'est très simple, vraiment des questionnaires très simples en ligne. Donc il suffit de s'inscrire sur le site compar.aphp.fr.
Voilà, c'est dit. Professeur Nizar Aflax, j'ai dit enfin une bonne nouvelle, enfin une recherche d'envergure, parce que l'endométriose finalement reste assez mal connue. Pour qu'on soit tous à peu près raccord en ce début d'émission, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est précisément ?
Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui survient par la prolifération de cellules de l'intérieur de la cavité utérine qu'on appelle l'endomètre, qui vont migrer en dehors de la cavité et vont proliférer. Du coup, en fait, c'est une sorte de prolifération un peu anarchique.
Elles vont se fixer sur d'autres
organes. Donc, elles vont passer par la paroi de l'utérus, par les trompes et dans la cavité abdominale. Elles vont se fixer sur des endroits précis de la cavité abdominale et se développer, proliférer.
Et provoquer, du coup, des douleurs
Absolument.
À chaque cycle, là où elles se sont fixées, c'est ça ?
Absolument. Ouais. Et donc, les symptômes dépendent essentiellement des sites de fixation, des localisations, de l'existence de nerfs profonds à ce niveau, etc. Donc, ça peut être très, très douloureux avec des toutes petites lésions.
Alors ça, évidemment, Alicia connaît bien. Elle a 27 ans, elle est doctorante en sociologie à Aix-en-Provence. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Alicia.
Bonjour.
Quand est-ce que vous avez su que vous étiez atteinte d'endométriose ?
Alors moi, ça a été un long parcours, mais un peu comme toutes les autres femmes, quoi. J'ai mis 2 ans à être diagnostiquée et comme vous aviez dit, c'est quand même pas beaucoup, 2 ans. Mais du coup, moi, j'ai senti vraiment une différence dans les rapports sexuels avec mon compagnon. On sortait ensemble depuis 6 ans, à peu près. Et là, j'avais vraiment très mal, alors que tout se passait bien avant. Et là, j'ai su qu'il y avait un souci, quoi, que ça allait pas, voilà. J'avais des douleurs pendant mes règles. Mais là, c'était quelque chose d'autre. Et du coup, j'ai voulu chercher et creuser un petit peu, voir ce que j'avais.
Alors, j'imagine le premier réflexe, c'est de se tourner vers sa gynéco, c'est ça ? C'est ce que vous avez fait ?
C'est ça, tout à fait. Alors, sachant aussi que moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que ma mère avait eu un cancer de l'utérus et des ovaires. Et elle avait eu aussi une endométriose. Donc, du coup, j'étais un petit peu sensibilisée aussi à ce que ça pouvait être d'avoir des règles douloureuses et d'avoir des maladies liées à ça. Et du coup, moi, je me suis tournée vers ma gynécologue et j'avoue qu'au départ, j'ai pas reçu un accueil complètement, c'est pas ce que j'attendais, quoi.
C'est-à-dire?
Du coup, au départ, je lui disais que j'avais mal pendant mes règles, que j'avais mal pendant les rapports sexuels et que ça me faisait vraiment, que c'était différent, en fait, de d'habitude. Et ma gynécologue m'a dit, mais c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Voilà. Donc, elle m'a dit, prenez la pilule que vous prenez d'habitude. On va peut-être en essayer une autre. On verra bien. Mais on verra plutôt de ce côté-là. Et puis après, elle n'a jamais parlé d'endométriose au départ.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous prenez cette pilule, ça ne suffit pas. Vous continuez d'avoir mal et pendant vos règles et pendant vos rapports. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Et du coup, je suis d'une nature, je lâche rien. Du coup, j'ai été voir quelqu'un d'autre pour prendre vraiment un deuxième avis. Et ce quelqu'un d'autre, vraiment, au départ, me disait que c'était pas normal d'avoir mal.
Quelqu'un d'autre qui était un gynéco aussi ?
Oui, tout à fait. J'ai toujours été voir des gynécologues, en fait, au
D'accord.
départ. Voilà. Et après, j'ai commencé un traitement un peu plus différent, c'est-à-dire j'ai pris une pilule, mais en continu, qui m'a stoppé mes règles. Donc là, c'est vrai que ça allait mieux, mais j'avais toujours des douleurs. Et alors, au lieu d'avoir des douleurs pendant les règles, du coup, j'avais des douleurs un peu tout le temps.
Ah. Ouais.
Donc, je suis allée voir quelqu'un d'autre.
Okay.
Je pense que j'ai vu la moitié des gynécologues de Marseille. Voilà, mais du coup, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose qui va pas, j'ai vraiment mal. Et ça allait crescendo, en fait. J'avais pas que mal au ventre au niveau de l'utérus, mais j'avais mal aussi au ventre pendant la défécation. J'avais vraiment des douleurs digestives, etc. Donc, me suis dit, là, c'est de pire en pire.
C'est à ce moment-là que vous avez fait une IRM ?
Oui, mais alors, c'est vraiment beaucoup plus tard, en allant voir au moins 4 ou 5 gynécologues, où je suis tombée vraiment... Alors, au départ, je me suis tournée vers des associations parce que je faisais partie d'autres associations par ailleurs. Et je me suis dit que c'était toujours le point de départ, en fait, pour pouvoir collectiviser la parole et échanger autour de la maladie. Donc, du coup, je me suis tournée vers l'association Les Clés de Vénus, qui, en fait, répertorie des praticiens qui sont bienveillants et qui connaissent un peu les problèmes de vaginisme, etc. Parce qu'au départ, je pensais que c'était ça. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à consulter une gynécologue qui était répertoriée par le site. Mmh. Et c'est là où elle m'a dit, il faut aller faire une IRM, il faut faire des prises de sang, il faut faire la totale, quoi. pour pouvoir voir si j'ai une endométriose ou pas. Et c'est la première fois que j'entendais parler de l'endométriose, en tout cas, auprès du gynécologue, quoi.
Et aujourd'hui, comment ça va ?
Ben aujourd'hui, ça va. alors après, ça va. Je me suis fait opérer en janvier de cette année.
Ouais.
Et ben, pour l'instant, tout se passe bien. J'ai préféré faire de la rééducation du périnée. Alors, je pense qu'on en parle très peu, en fait, dans le milieu lié à l'endométriose. Et c'est dommage parce que la rééducation du périnée, moi, ça m'a fait énormément de bien. Dans le sens où j'ai pu prendre conscience que mon périnée est un muscle, enfin des choses un peu bêtes quoi, mais qui m'aident au quotidien sur la relaxation, oui. Sur le fait de prendre conscience que ben avoir mal pendant très longtemps, ça m'a crispée et du coup il va falloir que j'arrête d'être crispée et bien que sûr. Je prenne conscience de ça. Donc voilà.
Merci infiniment Alicia pour votre témoignage. Je suis sûre qu'il va aider beaucoup d'autres femmes à mettre des mots sur ce qui leur arrive. Et qui sait, peut-être à nous appeler ce matin ou à se tourner vers Endomine. Marie Gabillet, en quoi l'histoire d'Alicia est emblématique de ce que vivent les femmes qui souffrent d'endométriose ? S'il y avait une chose, par exemple, qui vous vient à l'esprit.
Non, on voit que c'est en fait la multiplicité des actions auprès des médecins qui finalement ressemblent au parcours de quasiment toutes les femmes. Alors c'est vrai, elle le disait, 2 ans. Elle est plutôt chanceuse dans son parcours. En moyenne, c'est 7 ans le diagnostic. Ouais. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes ont connu cette errance d'aller voir un médecin qui dit non, d'aller voir un autre, d'insister en fait. Les femmes insistent et c'est elles-mêmes qui cherchent la maladie et c'est elles-mêmes qui demandent en fait à être testées pour cette maladie.
Professeur Nizar Aflaq, on va parler de la longueur du diagnostic, on va se demander pourquoi, mais l'une des premières raisons, c'est parce qu'on dit, je crois, qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes qui en souffrent. Ça veut dire quoi en fait ? Très concrètement, les symptômes vont de quoi à quoi ?
Alors les symptômes, effectivement, sont assez variables. C'est essentiellement des douleurs de règles, mais qui peuvent également varier, c'est-à-dire survenir en tout début, en milieu de règles. Les douleurs pendant les rapports sexuels sont assez typiques. Mm-hmm. Alors comme l'a dit cette
Alicia,
dame, voilà, on peut mettre quelque temps à se rendre compte et à percevoir réellement l'origine de la douleur et à consulter pour ça. Ça peut être des douleurs pendant la défécation, quand on va à la selle. Ça peut être des douleurs en urinant. Peut être des douleurs de type nerveux, c'est-à-dire des douleurs de sciatique ou des choses comme ça.
Donc c'est très, très, très varié, d'où sans doute la difficulté à diagnostiquer l'endométriose. Aidez-nous, passez le relais ou le témoin, écrivez-nous sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse ou encore appelez-nous au 01 45 24 7000. Francesca Antonini et Samuel Souillette sont au standard ce matin. Théo Denmat est en régie, il assure la préparation de cette émission avec Mégane Fleury. À la technique, Rémi Sistiega et Alexandre Chenet, Lauriane Toulmon à la réalisation. Voilà. Vous les connaissez tous, vous êtes chez vous. I've been feeling kinda cooped up. I'm trying to get some fresh air. Hey, well, you got the roof out. You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra attention. Paparazzi wanna shoot ya. Niggas dying for less out here. I've been in my bag anyway. Trying to throw a bag in the sand.
For the cameras, right. Fuck, I'm doing fish bowling. So. 100,000 on the passenger, bitch. I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses.
I need 10
'cause bomb head is non-disclosure.
I need 10
so I can live with a peace of mind without niggas taking a piece of mind and peace be still and not do fine. So fuck a fix-it ticket. You pull me over and might see one of your bitches.
Run, 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 run.
Anderson .Paak et l'immense Kendrick Lamar en featuring, c'était Teens pour commencer la semaine avec ce qu'il faut de patates. Vous êtes dans Grand Bien Vous Fasse sur France Inter, on parle de l'endométriose ce matin en compagnie notamment de Baptiste Beaulieu et d'Aline Perraudin. Aline Perraudin, je vous ai coupé la chic tout à l'heure, vous vouliez nous dire sur l'endométriose que c'est l'un des sujets les plus consultés
c'est
sur
l'un
le,
des
le
sujets
site
les
de Santé
consultés.
Magazine.
Ouais. Il y a vraiment un besoin d'information pour beaucoup d'internautes se plaignent effectivement d'une errance de diagnostic et puis aussi ont des demandes concernant les traitements.
Eh ben, on va en parler ce matin, on est là pour ça.
Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
C'est là qu'on s'énerve.
Oui,
j'aimerais bien parler des règles.
T'es énervé, tu dois avoir tes règles.
Ouais, en fait, quand on a nos règles, on est vénère. Parce que c'est un putain de bordel qui se passe là-dedans.
Il y a des morceaux de ce qu'on appelle l'endomètre qui est collé à l'utérus, c'est donc de la muqueuse qui se détache en fait et qui tombe de notre utérus.
C'est pas un petit saignement de nez mignon un peu liquide où on fait...
Oups, attendez, pardon, j'en ai partout.
C'est des doigts,
des bouts d'humain.
Tous les putains de mois.
Pendant à peu près 35 ans en moyenne.
Par contre, attendez, faut vraiment pas en parler. Genre pendant 35 ans, tous les mois où t'as tes règles, tu fermes ta gueule.
Parce que déjà, le sang des règles, bah c'est dégueulasse. On va dégoûter les autres.
Ah ouais, non, l'imposer aux personnes qui ont pas leurs règles.
3 jours dans le mois, ça va les filles, on s'en remettra, ce n'est pas grand chose, 3 jours sur 30.
Alors certes, ça rentre un peu dans l'art de bon matin, mais c'est pour notre bien. Les youtubeuses Marion Seclin, Camille Giry et Justine Lossa appuient toujours là où ça gratte un peu. 3 jours sur 30, c'est pas grand-chose. On a toujours cette tendance, Marie-Gabillet, à minimiser tout ce qui tourne autour du cycle menstruel.
Oui, on minimise et on...
On dit problème de bonne femme, c'est ça ?
Souvent, ouais. Finalement, c'est un problème... C'est normal, en fait, d'avoir mal pendant ses règles. Et puis, voilà, ça va passer. Il suffit d'un petit médicament dont je ne citerai pas les noms, mais bon, voilà, des choses qui ne font pas... qui font pas grand chose, hein, qui vont pas aider dans ces douleurs-là.
Ça touche la femme. Sauf que ça touche aussi, pardon, mais leur compagnon, ça touche aussi leur mari, ça touche aussi les pères quand elles sont jeunes. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'une des raisons, professeur Nizar Affleck, pour laquelle on a tant de mal à mettre des mots sur ce que c'est cette banalisation finalement de la douleur pendant les règles?
Oui, oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre que l'endométriose, là on en parle depuis 2-3 ans, peut-être 4 ans maximum, grâce aux associations, donc merci. mais auparavant, on en parlait très très peu, même en médecine, même entre médecins ou dans les études de médecine, c'est un sujet qui est abordé de façon un peu secondaire.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup les médecins ne sont pas au courant, ne savent pas ce que c'est? l'endométriose ?
Si, ils savent bien sûr, ils ont entendu parler de ça, mais ils ne sont pas sensibilisés. L'endométriose n'a pas été considérée comme une maladie fréquente et importante jusqu'il y a quelques années. Et en fait, c'est effectivement quand les associations sont montées au créneau qu'elles ont provoqué cette prise de conscience au public en général, mais aux médecins en particulier, enfin chez les médecins en particulier, en leur disant attention, enfin c'est, on est très nombreuses à avoir cette, à souffrir de cette maladie. Et c'est quelque chose qui est important dans notre vie quotidienne. Mais et comme vous dites, effectivement, les conjoints, etc., etc. Oui.
Pardon pour ma réaction un peu naïve, mais à partir du moment où l'on sait que sur une IRM, on pourra savoir si oui ou non des cellules de l'endomètre se sont greffées ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne va pas tout de suite faire une IRM et puis hop là, on le sait ? Enfin, je sais que ce n'est pas si simple, mais je force un peu le trait volontairement. Mais
effectivement,
pourquoi,
c'est pas si simple.
Pourquoi on ne le fait
pas ? Ce n'est pas si simple parce qu'en fait, l'examen de référence, ce n'est pas l'IRM, c'est l'échographie.
Ouais.
Mais c'est l'échographie faite par un référent, c'est-à-dire faite par quelqu'un qui a vraiment l'habitude de l'endométriose. Et cet examen, quand il est fait par des gens compétents, permet de voir plus que l'IRM. Et mieux que l'IRM pour certaines choses, notamment pour les atteintes digestives, pour les atteintes profondes, etc. Donc l'IRM, on la réserve en général en deuxième intention, c'est-à-dire quand on a fait le diagnostic et quand on se pose la question d'opérer la patiente.
Alors il y a quelqu'un en ligne avec nous qui a peut-être du coup subi les conséquences de cette errance, enfin de ce flou diagnostique, c'est Virginie. Bonjour Virginie.
Oui, bonjour.
Vous souffrez d'endométriose, où est-ce que ouais. vous en êtes ? Dans ce alors, parcours-là qu'on évoquait tout à l'heure.
Moi, alors actuellement, je suis sous ménopause artificielle parce que j'ai déjà eu un bébé, mais malheureusement avec de l'aide des filles et toute l'aide à la procréation. Parce que quand en fait j'ai voulu faire un bébé et que ça venait pas, j'ai eu de la chance d'avoir dans mon entourage quelqu'un qui avait souffert d'endométriose, donc je me suis directement orientée vers ça. Je suis tombée sur une très bonne gynécologue qui m'a de suite pris en charge, qui m'a envoyée me faire opérer directement parce que c'était pas possible de pouvoir faire les traitements d'aide à la procréation avec l'endométriose que j'avais déjà au niveau au niveau de son avancement. Donc je me suis d'abord fait opérer et puis ensuite on a commencé les traitements. Donc j'ai réussi à tomber enceinte, mais avec beaucoup de problèmes de parcours, puisque j'ai fait une grossesse extra-utérine. On a été obligé de me réopérer, demander une trompe. Et puis aujourd'hui, donc après ma grossesse, j'ai été obligée de reprendre de suite un traitement un peu particulier. Enfin, pour l'endométriose, la pilule contraceptive ne suffisait pas, parce que j'ai à nouveau eu des douleurs pendant les rapports, des douleurs pendant les règles. Ça a recommencé de plus belle après la grossesse, en fait.
Alors, on va pouvoir parler des traitements hein, dans quelques minutes dans Grand Bien vous fasse. Je tenais à vous remercier, Virginie, d'avoir pris votre téléphone, de nous avoir appelé, parce que, on le disait en début d'émission, c'est parce que des femmes ont parlé que les choses ont avancé. Je vous souhaite bonne route, Virginie, et une bise à votre enfant. Marie-Gabier, vous êtes par ailleurs chercheuse en cardiologie. Est-ce que vous avez noté une différence dans l'intérêt que portent les médecins, les scientifiques à l'endométriose par rapport aux maladies cardiaques, par exemple ?
Je ne sais pas si c'est une différence des médecins, mais en tout cas, c'est une différence en santé publique, je dirais, parce que finalement, on a beaucoup de crédits de recherche dans le domaine de la cardiologie, on en entend beaucoup parler. L'endométriose, on n'entend pas parler, peut-être parce qu'il y a moins d'argent qui est alloué pour ces projets de recherche. Peut-être qu'on se dit que c'est des projets qui vont pas être menés à terme, peut-être qu'on... Je sais pas exactement pourquoi on fait pas assez de recherche dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a besoin.
Et c'est vrai, il faut faire vite pour poser un diagnostic, parce que plus on tarde...
Oui, plus on tarde, plus on voit des formes sévères, comme vient de l'expliquer Virginie. Ouais. C'est vrai que plus on tarde et plus on risque d'avoir des cas très graves.
Donc il faut en parler. Alors s'il y en a un qui l'ouvre régulièrement, et il fait bien parce qu'il le fait très bien, c'est Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà, un patient souffre, d'endométriose ou pas d'ailleurs, le médecin est touché, peut-il l'exprimer ? Baptiste Beaulieu, peut-on pleurer devant son patient ?
C'est une bonne question. Alors, j'ai pas vraiment de réponse, je pense que chaque situation est unique. Du coup, je vais vous parler d'une situation en particulier que j'ai vécue il y a quelques années. Donc, je vais vous parler d'une patiente que j'ai accompagnée jusqu'au bout. une femme formidable, elle habitait la rue en face de la mienne et je suis allé la voir en visite une fois par semaine pendant 6 mois. Je garais mon vélo à l'endroit où je le gare habituellement pour rentrer chez moi, mais je traversais la chaussée et je sonnais chez elle et je vérifiais sa tension artérielle, son traitement, l'état de ses douleurs, son poids et je parlais un peu. En 6 mois de maladie, elle n'a jamais, jamais prononcé le mot cancer. Elle utilisait des périphrases comme « la petite pêche » ou « mon ovni ». Je respectais son choix de ne pas dire tout la vérité, alors j'utilisais les mots de la patiente, sa vérité, et c'était la seule vérité qui compte puisque c'était la sienne. Je l'examinais, puis je rentrais chez moi. J'invitais des amis à dîner, je riais, je jouais à des jeux de société, je dormais, je mangeais, je faisais l'amour. Bref, je faisais ce qu'un jeune homme de 30 ans fait pendant qu'elle, de l'autre côté de la rue, elle s'éteignait. Et vous savez quoi, Julia ? On ne peut pas aller voir quelqu'un chez lui une fois par semaine pendant 6 mois, sans qu'une relation humaine se crée. Un jour, cette personne que vous soignez vous propose un café car vous êtes passé après le repas de midi. Et vous sentez qu'elle a besoin de partager un café. Un jour, sa fille est là et vous raccompagne en bas. Elle pleure et vous posez une main sur son épaule. Un autre jour, c'est son fils qui est là et il vous propose une cigarette sur le balcon. C'est sa manière à lui de pouvoir parler, en fumant une cigarette sur le balcon. Et petit à petit, semaine après semaine, vous avez tissé, sans le vouloir, une relation d'amitié avec cette famille. C'est la seule fois où j'ai pleuré avec la famille d'un patient. J'étais allé à l'hôpital lui rendre visite, c'était la veille de sa mort. Les enfants étaient dans une pièce réservée aux familles et ils parlaient de leur maman. Ils disaient combien elle avait aimé la vie, aimé les dîners entre amis, aimé les jeux de société, aimé les hommes aussi. Beaucoup d'anciens amants étaient venus à l'hôpital lui dire adieu. Je m'en suis voulu. J'ai pleuré. Et je m'en suis voulu parce que j'ai trouvé ma réaction non professionnelle et sans doute hyper angoissante pour les familles. Quand on va mal, on a besoin de quelqu'un sur qui compter, quelqu'un de solide. Un soignant qui pleure, ben, ça fait peur, c'est effrayant. Et voilà, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Mais j'ai reçu une lettre 1 an plus tard. La lettre, elle disait « Merci de vous être occupé de maman et merci d'avoir pleuré à l'hôpital. Ça nous a aidé à faire notre deuil. » J'ai voulu savoir en quoi pleurer les avait aidés à faire leur deuil. Les enfants m'ont répondu « On a su qu'elle était partie avec un être humain plutôt qu'avec un technicien. » Voilà. Alors, peut-on pleurer avec la famille de nos patients ? Je n'ai pas de réponse à ma question. Peut-être qu'il ne faut pas, peut-être qu'il le faut. Chaque situation est unique. Vous savez, peut-être que les auditeurs et auditrices sauront, eux. Et peut-être qu'ils auront lu cet essai magnifique de Stieg Dagerman, qui s'appelle, beaucoup de gens l'ont lu, il s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Et Dagerman, il écrit ces mots, magnifiques, il dit « Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur la terre, je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. » Je me dis, peut-être qu'il y a des moments où le soignant peut les reprendre à son compte, ces mots. Peut-être qu'il y a des moments où il peut dire « Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur la terre, je rassemble tous ces mots dans des larmes et je l'offre aux familles. »
Merci Baptiste Beaulieu. Voyez, on est des gentils ici. Alors si vous aussi vous dites que peut-être vous souffrez d'endométriose, que vous ne savez pas vers qui vous tournez, on est là avec le professeur Nizar Aflak, gynécologue obstétricien, Marie Gabillet de l'association Endomide et Aline Perraudin de Santé Magazine. Là, pour vous répondre, alors appelez-nous au 01 45 24 7000. Écrivez-nous sur notre page Facebook parce qu'en fait, ça fait du bien et qu'en fait, ça n'est pas si compliqué de mettre des mots sur nos mots, surtout quand ce sont des mots simples, surtout quand ils sont écrits par Samuel Benchetrit et qu'ils sont chantés par Vanessa Paradis. Vous êtes sur France Inter, laissez-vous porter.
J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant. Première fois enfant, à moi-même de temps en temps. Ces mots simples pour te les dire. Je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent. que l'hiver soit aux amants. Je voudrais, pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir, je te les donne à présent. C'est mon cœur, c'est mon sang.
Si on t'aime, ces mots simples, c'est le tout premier extrait du prochain album de Vanessa Paradis. Il sortira très officiellement le 16 novembre. D'ores et déjà, ce titre est dans la playlist France Inter. C'est cadeau, c'est pour vous ce matin grâce à Muriel Pérez. Vous retrouverez toute sa programmation musicale sur franceinter.fr à la page de Grand Bien Vous Fasse. Évidemment, là où vous pouvez nous podcaster, comme quoi la vie est bien faite, parfois.
Les règles.
Grand Bien Vous Fasse.
Moi, tu me donnes un jogging, une bouillotte, mes règles, avec des petites crampes bien aiguës et comme dirait George Clooney, what else?
Sur France Inter.
What else, hein, pas si what else que ça, ou disons plus tant que ça, grâce à la mobilisation des premières concernées. L'endométriose a eu sa première marche mondiale en 2014, sa première campagne nationale chez nous en France en 2016. Le tabou qui entoure les règles et l'endométriose est en train de se fissurer. Témoin, ce déluge de mails qu'on reçoit depuis tout à l'heure et de messages Facebook. Alors, professeur Nizara Flack, je vais vous demander un exercice extrêmement difficile. J'ai une batterie de questions à vous poser de la part des auditeurs. Il va falloir répondre assez succinctement. Mais tout de même, alors on a Amélie qui nous dit en quoi consiste l'examen de dépistage de l'endométriose. Qu'est-ce qu'on fait, en fait?
D'abord, l'examen clinique, enfin, l'interrogatoire de la patiente. Il faut bien l'interroger, l'examiner. Et après, une échographie faite par un échographiste spécialisé.
Mais si le gynécologue ne veut pas nous le prescrire, cet examen, parce qu'il nous dit que, comme nous le dit Emmanuel, si on se fait traiter de chochotte, qu'on nous explique que c'est normal d'avoir mal pendant les règles.
La raison d'aller voir quelqu'un d'autre à ce moment-là.
Oui, alors je crois qu'en domaine, vous recensez une liste de praticiens.
Ce sont des médecins qui soutiennent l'association. En fait, c'est vrai que la loi ne nous permet pas de donner une liste de médecins. Voilà. Mais ouais. En fait, on recense un certain nombre de médecins qu'on peut aller voir. Après, c'est vrai que la problématique, c'est que les délais sont assez longs aujourd'hui, pour obtenir des rendez-vous avec des médecins qui sont spécialisés dans la maladie.
Alors, on a un message de Céline qui nous dit que sa fille, qui a aujourd'hui 17 ans, a des règles horriblement douloureuses depuis ses premières règles à 12 ans. Est-ce que ça peut être de l'endométriose? On a Joël qui nous dit, souffrant de douleurs physiques et morales 10 jours avant chaque règle, y a-t-il une ressemblance entre endométriose et syndrome prémenstruel? C'est-à-dire à quel moment, professeur Nizara Flack, peut se dire, tiens, là, c'est de l'endométriose?
Alors pour la jeune fille qui a des règles très douloureuses, oui, bien sûr, ça peut être ça.
Ouais.
Et il faut d'abord tester les traitements antidouleurs, les antalgiques, notamment les anti-inflammatoires. Si ça ne suffit pas, je pense effectivement, il faut l'amener peut-être voir quelqu'un.
Un mail de quelqu'un qui a une adresse mail bizarre, donc je ne vais pas vous la lire, mais enfin, il se reconnaîtra. Notre fille de 18 ans est trop jeune. Notre médecin nous affirme que notre fille de 18 ans est trop jeune pour être atteinte d'endométriose alors qu'elle souffre pendant ses règles de sciatique et de maux de ventre. Qu'en pensez-vous?
Non.
On n'est pas
non,
trop
non,
jeune.
Elle n'est pas trop jeune, non, non.
Donc,
non, on peut
même
avoir
chose.
Des cas d'endométriose même avant la puberté.
Ah oui, d'accord.
Ça a été décrit, oui.
Donc, même chose, on change de praticien, on essaie de trouver quelqu'un qui est un peu plus spécialiste,
absolument.
Notamment sur le site d'Endomind. www.france-inter.fr. Et puis, on a Emmanuel qui nous envoie un long et joli message qui nous raconte que ce qui est le plus dur pour elle, c'est lorsque le médecin lui a dit qu'elle était une chochotte. Elle dit « Mon salut, je l'ai eu grâce à un gynécologue qui a pensé à cette maladie à qui je peux dire que je dois la vie. Car oui, le suicide est une idée permanente en cas de crise, tellement la douleur est innommable. » Et puis, on a Jocelyne qui nous dit « Il y a 3 mois, ma gynécologue m'a dit « Vous souffrez d'endométriose, mais depuis des années, j'ai mal. Elle a une sciatique, elle a mal aussi pendant les rapports. J'ai 48 ans, je suis ligaturée. Elle m'a dit que le seul traitement, c'était la pilule et c'était d'attendre la ménopause. Est-ce que c'est vrai ? Elle peut rien faire d'autre ?
Si, il y a d'autres traitements. Il y a notamment la chirurgie, mais enfin, c'est au cas par cas. C'est un peu difficile de répondre comme ça à cette
question-là. De toute façon, les traitements, on va pouvoir en parler un peu plus longuement dans quelques minutes. Mais on a en ligne avec nous la marraine d'Endomain, n'est pas n'importe qui, Marie-Gabillet, il s'agit de la chanteuse Imani. Bonjour Imani.
Bonjour.
Vous êtes une artiste engagée, on le sait, mais pourquoi particulièrement sur le sujet de l'endométriose ?
L'endométriose, outre le fait que j'en sois moi-même atteinte, je trouve que, après tout ce que vous avez décrit pendant l'émission, c'est assez évident que, quelque part, le fait qu'il y ait 1 à 2 femmes sur 10 qui souffrent, rien qu'en France, d'une maladie dont on n'a pas vraiment de traitement, dont on connaît pas vraiment les causes et qui est absolument invalidante sur un tronçon de vie très large et censé être le plus vivant entre guillemets d'une femme et qu'il n'y ait pas grand chose qui soit fait. Quelque part c'est une injustice faite aux femmes, ça va plus loin que juste le cadre médical pour moi. Et je pense que ça couvre plein de problèmes, comme peut-être une misogynie un peu latente, un patriarcat millénaire qui nous
explique... Je vois Marie-Gabillet sourire, hein, je voudrais pas avoir l'air de balancer, mais elle sourit.
Quand
vous dites ça à Marie-Gabillet de l'association Endomind.
Bah oui, je pense qu'elle est d'accord avec moi. D'abord, quand on nous dit t'as mal, c'est normal. Enfin, la souffrance, est-ce que la souffrance de la femme, de manière générale, et particulièrement quand il en vient d'endométriose, parce que c'est les règles, est-ce qu'elle est prise au sérieux ? Finalement, le sujet, il est vraiment là. Et si elle est vraiment prise au sérieux, peut-être qu'il y aurait des études, peut-être qu'il y aurait des choses qui auraient avancé, parce qu'endométriose, c'est pas une maladie qu'on a découvert en 2014. Hein.
1860, je crois, les premières publications sur. Oui, donc ça commence à faire un bail. Professeur Aflac, si une maladie similaire touchait les hommes, est-ce que ça changerait quelque chose ? Est-ce qu'on aurait...
Probablement.
Ouais.
Probablement, on peut pas dire non. Donc, effectivement, tout ce qui a été dit est vrai. Mais d'un autre côté, il y a aussi un autre facteur. Ça touche l'appareil génital.
Ouais.
Donc, ça reste un sujet tabou.
Bien sûr.
Par exemple, un problème qui toucherait la prostate de l'homme serait également tabou. Vous voyez ?
D'accord.
Mais en même temps, je suis entièrement d'accord avec Imani, avec toutes les personnes qui ont témoigné. Le fait que ça touche seulement à la femme, je pense, est une partie de l'explication de cette durée, ce délai très long de diagnostic.
Imani, vous le disiez vous-même, atteinte d'endométriose. Quand est-ce que vous avez pu mettre des mots dessus ?
Moi, j'avais 23 ans, mais donc du coup, j'ai fait partie des statistiques qui ont erré pendant 7-8 ans avant de le savoir. Et en fait, je l'ai su par hasard en vacances à Tahiti avec mes parents. J'avais une crise tellement insupportable qu'on m'a envoyé, enfin on a ouvert l'annuaire au hasard et on est tombé sur un gynéco qui lui s'est dit, à mon avis c'est ça.
Et ouais, 23
ans pour moi c'est il y a longtemps. Et à l'époque, on nous dit, bah, pour savoir, il faut ouvrir.
Ouais.
Et il n'y avait pas vraiment de spécialiste qui pouvait lire une IRM ou quoi que ce soit. Donc effectivement, je me suis fait opérer en vacances. Et là, on m'a dit que j'avais une endométriose. Et c'est assez horrible parce qu'à l'époque, on nous dit, bah voilà, vous allez être stérile, vous allez être obligé d'avoir une ménopause chimique et après la pilule. Enfin, à 23 ans, on vous sort tout ça alors que peut-être c'est des choses... C'est pas des choses auxquelles vous pensez forcément avoir des enfants. Et tout le reste, d'ailleurs, on se dit que jusqu'à présent, on s'était dit que c'était normal. Si vous voulez, vous avez 23 ans, vous pensez que c'est normal. Vous souffrez, c'est comme ça. Ma mère souffrait, mes sœurs souffraient, c'était comme ça. Et d'un coup, on vous dit non, bah, vous n'êtes pas normal, vous avez une maladie, mais on peut pas faire grand chose pour vous. Et il est là le désarroi, quelque part. Oui.
Aujourd'hui, vous êtes maman, donc finalement, les perspectives n'étaient pas si sombres que ça, en tout cas sur ce plan-là. En revanche, pour qu'on comprenne bien quel impact l'endométriose peut avoir sur la vie d'une femme, est-ce que ça vous a bloqué, empêché, freiné ? Qu'est-ce que ça a impacté chez vous ?
Ah bah, pour moi, l'endométriose est différente d'une femme à l'autre, donc... les symptômes ne sont pas toujours les mêmes, mais en ce qui me concerne, ça a été des fatigues chroniques, des douleurs invalidantes où je peux pas sortir du lit. Donc à l'époque où j'étais mannequin, ben c'est simple, c'est des fois t'appelles ton agent et tu lui dis ben le boulot qui devait être payé un pont d'or, je peux pas le faire aujourd'hui parce que je peux pas sortir du lit. Et là il y a tout le monde qui vous rionnait en disant mais c'est pas possible, on peut pas faire plus comédien que ça, il faut vraiment être feignante pour ne pas sortir du lit parce qu'on a ses règles. Donc du coup, bah, on apprend à se droguer, à prendre tout un tas d'antalgiques pour pouvoir tenir debout. Et ça a été très difficile aussi pendant ma tournée. Enfin, j'ai fait une énorme tournée, 2 heures de concert. Et puis tout le monde s'en fiche de savoir que vous êtes plié en quatre et que ça va être difficile et que vous rampez pendant 2 heures de concert. Donc vous avez mal avant vos règles, vous avez mal après vos règles, vous êtes fatigué en permanence, vous n'êtes pas toujours de bonne humeur, vous n'êtes pas toujours connecté aux autres. Et c'est assez difficile parce que d'abord l'endométriose, les gens savent pas ce que c'est, et puis il y a une espèce de tolérance un peu limitée parce que finalement les règles c'est pas non plus comme si vous étiez amputé ou comme si vous étiez handicapé dans un fauteuil roulant. Donc les gens ne comprennent pas vraiment. Et même vous commencez à culpabiliser. Vous culpabilisez de vous sentir comme ça parce que vous vous sentez faible. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre tous les jours de sa vie.
Merci infiniment, Imani, d'être intervenue ce matin dans Grand Bien Vous Fasse. Je rappelle que comme marraine de l'association Endomine, vous vous appelez à courir le 18 novembre au bois de Vincennes avec vous, avec Endomine, contre l'endométriose. Imani le disait, professeur Aflac, les traitements, c'est pas encore ça, Imani, et puis les autres témoins qu'on a pu avoir pendant toute cette émission. Où est-ce qu'on en est sur les traitements? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait?
Alors, il y a différents traitements. Il y a le traitement le plus classique, c'est la pilule qu'on donne en continu pour bloquer les règles. C'est le principe fondamental du traitement de la maladie, ouais. C'est de bloquer les règles. Alors bien sûr, il y a d'autres méthodes plus agressives, comme une auditrice l'a signalé tout à l'heure, c'est de donner des hormones qui provoquent une sorte de ménopause artificielle transitoire. Ouais. Mais il y a des nouveaux traitements qui sont à l'étude, qui sont plus intéressant probablement que la pilule et surtout moins agressif que la ménopause artificielle, qui sont assez prometteurs.
Alors, il y a Victoria sur Facebook justement qui nous dit « Les multiples opérations sont-elles indispensables? Doit-on passer par l'hystérectomie pour s'en sortir définitivement? La ménopause artificielle n'est-elle pas trop néfaste pour le corps ?» Enfin, si, quand même, non ?
Alors, la ménopause artificielle, normalement, on la préconise pour 6 mois. Alors, ceci étant dit, dans les cas un peu extrêmes, on peut aller plus loin avec un traitement hormonal en même temps, qu'on appelle une ad-back thérapie, c'est-à-dire un traitement pour contrecarrer les effets secondaires de la ménopause. Donc on peut aller plus loin. Mais l'hystérectomie, non, je ne pense pas que ça soit le seul traitement chirurgical ou le traitement le plus efficace. En fait, ça dépend exactement des symptômes et de la localisation des lésions. Une patiente qui a un nodule qui fait 10 mm, donc un petit centimètre très profond au niveau des nerfs profonds qui lui donne des sciatiques invalidantes, si on lui enlève l'utérus, ça ne changera strictement rien. Alors, ça va juste bloquer, enfin, ça va juste arrêter l'alimentation de la maladie, donc il n'y aura plus de cellules d'endomètre, donc effectivement, ça va stopper sur ce plan-là. Mais le nodule qui est là, qui donne des sciatiques invalidantes, il sera toujours là.
On va continuer avec vous, professeur Nizar Aflac, et avec vous, Marie Gabillet, à parler d'endométriose. On va regarder devant, on va se dire que l'horizon est plus bleu devant, qu'un peu plus tard, il fera sans doute un peu meilleur. Allez, on y va. On part en voyage avec Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Vous êtes sur France Inter. Grand bien vous fasse.
Bah, il la remercie de l'avoir accompagnée à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
Je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage,
puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir.
un instant, le train démarre.
Je resterai seule sur le quai et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours
et retourner dans notre cœur. Attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Ah, il espère que c'est en fumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu...
L'un des couples les plus mythiques de la chanson française pour nous accompagner, main dans la main, vers notre dernière ligne droite. On parle d'endométriose ce matin dans Grand Bien Vous Fasse.
Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
J'arrête pas de penser à Mamie en ce moment.
Tu sais ce qu'elle m'a dit le premier jour de mes règles? Maintenant t'es une femme. C'est complètement con pourquoi elle m'a dit ça. Et du coup je suis quoi maintenant? J'ai plus mes règles, je suis quoi?
Bah tu sais, tu m'avais dit ça aussi hein.
Non.
Ah bah si.
Il y a toujours beaucoup de messages sur notre page Facebook. Un peu ce que semble vivre Agnès Jaoui dans ce film Aurore dont vous venez d'entendre un extrait. C'est Germaine qui nous raconte que on lui a découvert une endométriose à 63 ans. Les gynécos consultés jusque-là me disaient que je n'acceptais pas ma féminité lorsque je me plaignais. Résultat, ménopausée à 29 ans, ovariectomie, lourd traitement pendant 2 ans. Et je ne parle pas de l'impact psychologique, on imagine, Germaine. Et puis, message de Claire qui nous dit qu'elle n'a pas eu de maux de ventre particulièrement douloureux, que pourtant elle est atteinte d'endométriose. Elle l'a su quand s'est fait opérer d'une tumeur bénigne qui s'avérait être de l'endométriose. Mauvais premier diagnostic. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie avant. Aucune explication des médecins quand je me suis réveillée. Juste une feuille avec écrit le nom de la maladie. Alors, il y a quelqu'un qui est en ligne avec nous qui, lui non plus, n'avait jamais entendu parler de la maladie. Il s'appelle Gilles et il est médecin. Bonjour, Gilles.
Oui, bonjour.
Alors, en fait, donc, pendant 20 ans, il y a 20 ans, pendant vos études de médecine, vous n'en avez jamais entendu parler.
Voilà, tout à fait. Donc, moi, je suis médecin généraliste et je suis donc... Enfin, j'ai fait mes études de médecine générale et je suis maintenant médecin urgentiste. Hein. Et donc, j'ai terminé mes études en 2001... pendant lesquelles je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. J'ai rencontré mon épouse en 2003, qui elle-même, excusez-moi, je suis ému, qui elle-même est atteinte de cette maladie. Mmh. Avec, comme toutes les femmes qui ont témoigné, des ressentiments sur la vie quotidienne, sur la vie sexuelle, sur l'incapacité à avoir des enfants. Voilà. Et donc... c'était pour dire que moi, quand j'ai été interne, donc de 99 à 2001, je suis passé dans des services d'urgence. J'ai sûrement vu des femmes qui avaient des douleurs abdominales et qui étaient sans doute des symptômes d'endométriose que je n'ai pas diagnostiqué, que je n'ai même pas évoqué puisque je ne connaissais pas cette maladie. Voilà.
Et aujourd'hui, vous témoignez, Gilles, dans Grand Bien Vous Fasse, et c'est vraiment important. C'est important pour nous ce matin d'avoir la parole d'un homme. Professeur Nizar Aflak, la première urgence, ce serait de former les médecins?
Absolument. C'est très intéressant ce que mon confrère vient de dire. Effectivement, il y a, juste pour vous dire, 5 à 20% des causes d'hospitalisation en urgence pour douleurs pelviennes chez la femme, c'est de l'endométriose.
C'est ça.
5 à 20%. C'est-à-dire que, grosso modo, entre 1 sur 10 et 1 sur 5 patientes qui est passée dans le service d'urgence n'a pas été diagnostiquée.
Alors, on a une question pour vous, Aline Perraudin de Pauline, sur notre message, sur notre page Facebook. Elle nous demande si l'infertilité est automatique pour les personnes atteintes d'endométriose. Et vous, vous conseilleriez
alors,
quoi?
Je conseille pas, je voulais revenir sur les... Ce n'est pas automatique.
Ouais.
C'est évidemment, comme l'a dit le médecin, il y a un retentissement sur la fertilité. Ça dépend des cas d'endométriose. Là, je vais laisser parler le professeur. Mais je voulais revenir sur les conditions de la congélation des ovocytes. Parce qu'on a vu il y a quelques jours la chanteuse Laurie qui a, dans une lettre ouverte au président de la République, imploré, demandé que toutes les femmes puissent congeler leurs ovocytes. Et aujourd'hui, eh bien, ça s'inscrit dans la loi et c'est très strict. On peut l'autorisation de congeler ses ovocytes, c'est uniquement en cas de don d'ovocytes. Et deuxièmement, quand la fertilité risque d'être prématurément altérée par une maladie, comme l'endométriose, mais si elle est sévère, ou lorsqu'une prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité. Et là, on voit que ce n'est pas pour tous les cas d'endométriose. Donc, il y a, on l'a dit, plusieurs formes d'endométriose. Ça concerne plutôt les formes qui touchent les ovaires. Donc, il n'y aurait peut-être pas d'utilité
ça,
à faire congeler ces...
Endométriose, infertilité, c'est pas...
C'est pas automatique, mais surtout, le fait, beaucoup de femmes demandent de pouvoir congeler leurs ovocytes et ne le peuvent pas parce qu'elles n'ont pas une forme d'endométriose qui serait, qui est considérée comme suffisamment sévère. Mais là, j'interroge le médecin, c'est quand même assez difficile, on a peu de recul et ces femmes demandent, enfin, que ça soit peut-être moins sévère, ces critères.
Alors, certes, c'est la première cause d'infertilité. Il y a entre 25 et 50% de femmes atteintes d'endométriose qui sont infertiles donc ça se comprend, enfin c'est la demande est logique, mais en même temps la congélation d'ovocytes ne concerne pas que l'endométriose. Après, ça peut être un choix de vie, etc.
Oui, oui.
Parce que à 35 ou 38 ou 40 ans on a envie de congeler ses ovocytes pour un projet de grossesse ultérieure. Donc c'est un sujet qui est plus un sujet de société qu'un sujet... Alors, il est en partie médical, mais il n'est pas que médical.
Mais le Comité national d'éthique a émis un avis favorable pour élargir la congélation des ovocytes. Et on va le voir avec la loi de bioéthique.
Alors, bien entendu, dans les cas médicaux, dans les problèmes médicaux, c'est tout à fait autorisé.
Mais Laurie dit que son endométriose n'est pas assez sévère pourtant. Et qu'elle ne peut pas les congeler.
On va pouvoir faire une deuxième émission sur l'endométriose. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura jamais fini d'en parler. Tant qu'on en parle, c'est tant mieux. Grand bien vous fasse, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous d'être venus nous voir, professeur Nizar Aflac et Marie Gabier. Je rappelle deux adresses internet très importantes, www.endomind.fr ou .org,
.org.
Ah ben voilà, .org. Et celle-ci, https://compare.aphp.fr. C'est la grande enquête de la PHP à laquelle vous êtes appelés à participer. Allez-y, la recherche a besoin de vous. Les liens vers l'association et cette enquête seront bien sûr reproduits sur la page de Grand Bien Vous Fasse sur franceinter.fr. Merci Aline Perraudin de Santé Magazine et Baptiste Beaulieu. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Toutes les histoires d'amour du monde aux éditions Mazarine. Les auditeurs de Grand Bien Vous Fasse vous disent à lundi prochain, à tous les deux. Avec Ali Rebéi, bien sûr. Quant à nous, on se retrouve demain, 10h, toujours avec le même plaisir. Les vrais méchants existent-ils? Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook ou sur l'appli France Inter, bien sûr en direct au 01 45 24 7000. On vous attend, mais ne bougez pas tout de suite. Vous avez rendez-vous avec Daniel Morin et Leïla Kadour Boudadi pour la bande originale.